Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun qui nous rejoignez sur notre site Bible Espoir. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous fassions une méditation sur un sujet tout à fait particulier que la Bible, en effet, eh bien là, nous rapporte. C'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Et nous allons discuter autour de deux mots, deux verbes, c'est-à-dire le verbe épargner et enlever. Alors, je vais m'expliquer de la situation et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 1er. C'est un passage très très court où l'apôtre Paul nous dit ceci, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, chaque mot a sa valeur. Et je voudrais souligner particulièrement le fait de ce qui nous est présenté, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus de condamnation pour ceux, nous le précise l'apôtre, qui appartiennent à Jésus-Christ, qui ont foi en Jésus-Christ, ce qui étaye à l'évidence que nous sommes sauvés, donc en faisant confiance à ce que Dieu nous dit, qu'il nous sauve. Et puis, nous l'avons signalé tout à l'heure, il s'agit de délivrance, il s'agit d'être épargné. En d'autres termes, nous pourrions dire que nous passons outre. Et cela fait référence naturellement à un grand événement que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est la Pâque juive, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte et ont traversé la mer Rouge, la Pâque, qui veut dire passage. Pâque veut dire passage. Et c'est dans cet épisode fameux de la sortie de l'Égypte que Dieu a épargné, il a délivré, et que les Hébreux ont passé outre le jugement. Nous allons avoir comme référence quelques exemples dans la Bible. Et si nous voulons nous souvenir de Noé et de sa famille qui étaient sauvés du déluge, nous savons que Dieu avait donné des ordres parce que toute l'humanité était condamnée par, en effet, ce séisme, ce cataclysme qu'est le déluge. Et une famille, la famille de Noé, a été épargnée, elle a été délivrée. Il y a un point commun, ceux-là ont été arrachés, ils ont été épargnés et ils ont passé outre la mort. C'est une sorte d'enlèvement miraculeux. J'ajouterai à Noé le cas d'Enoch dans le livre de la Genèse au chapitre 5 et au verset 24 où il nous est dit tout simplement d'une manière très lapidaire qu'Enoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est-à-dire qu'il y a naturellement cette notion de ce suivi de Dieu, de cette marche avec Dieu, de cette confiance en Dieu. Et il nous est simplement rappelé qu'il a disparu, Enoch. Il ne fut plus, et pour une bonne raison, c'est que Dieu l'a pris. Alors, sait-on de quelle manière il a été enlevé ? On l'ignore, mais toujours est-il que les mots sont clairs, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc il s'agit que là, il ne s'agit pas d'une erreur, mais tout simplement d'une volonté déterminée de Dieu d'extraire Enoch, de la vie pour l'amener dans la présence de Dieu. Nous avons également le prophète Élie dans les livres des rois ou des chroniques, je ne me souviens pas, mais toujours est-il qu'il s'agit d'un enlèvement du prophète Élie monté au ciel dans un char de feu. Nous savons qu'il est bien spécifié qu'il est monté au ciel dans la présence de Dieu qui le prend lui aussi. Et puis nous avons un dernier exemple, je ne vais pas les multiplier, mais nous avons le cas de Jésus. Et Jésus, au moment de l'ascension, après sa crucifixion, après tout simplement sa résurrection, il nous est dit que eh bien, il est monté au ciel, que ses disciples sur les monts de Galilée étaient autour de lui et ils l'ont vu s'élever sur les nuées. Donc, c'est aussi un enlèvement. Et ces exemples qui posent le phénomène mystérieux de l'enlèvement, puisque j'ai cité que c'était le titre de notre méditation. Gardons en mémoire le sens de cet événement, c'est-à-dire, et je le répète à dessein, c'est-à-dire le passage ou un passage passé ou passé outre. La Bible fait état de l'enlèvement de l'Église et il est intéressant de tourner quelques pages dans le Nouveau Testament. J'aimerais justement le situer sous la plume de l'apôtre Paul quand il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et dans les versets 16 et les suivants, il nous est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra, et les morts descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc s'il est question que Dieu descend du ciel, c'est qu'à travers la personne de Jésus, il est monté au ciel, et il vient nous chercher, et ils ressusciteront, nous est dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, eh bien, il nous est dit que nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas passés, eh bien là, par tout simplement la mort telle que nous la connaissons, nous les vivants, qui serons restés sur cette terre, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a là quelque chose dans cette perspective, dans cette espérance glorieuse, eh bien que nous serons ensemble enlevés avec eux dans le ciel, les nuées, à la rencontre du Seigneur et dans les airs. Alors, nous voyons que ça, c'est tout simplement la manifestation du retour de Jésus-Christ dans sa première phase, qui verra plusieurs phénomènes glorieux et ses heureuses conséquences que j'explicite maintenant. Après un temps, surviendra, après la première phase, surviendra la deuxième partie, la deuxième phase du retour de Jésus-Christ que l'on appelle la parousie ou l'avènement glorieux de Jésus. Ce sera un retour visible, dans les airs, en gloire, après l'humiliation, ça sera le retour de Jésus qui sera glorieux et ça sera en effet, à ce moment-là, après un délai, un laps de temps de 7 ans, eh bien, il y aura naturellement ce qu'on appelle la grande tribulation, comme cela, et ça concerne Israël, comme cela, eh bien, est explicité dans Zacharie, et je me permets d'ouvrir ce passage pour eh bien, nous montrer toutes ses intentions et ses dispositions de Dieu au chapitre 14. Dans Zacharie, il est dit ceci, en parlant de Jésus, de son deuxième retour, de cette phase seconde de son retour, il nous est dit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, c'est bien à Jérusalem, qui est vis-à-vis de Jérusalem, et c'est précisé, du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne recoulera vers le septentrion, etc. etc. » Et au verset 11, eh bien, il nous est simplement dit « On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. » Donc, le retour, la deuxième phase du retour de Jésus-Christ verra, eh bien là, une paix qui est une paix de Dieu, une paix céleste. Et puis, il y a également, eh bien, voilà, tout simplement, un autre passage de Zacharie, quand il est dit ceci au chapitre 12 et au verset 10, dans ces termes, « Alors Dieu dit, sur la maison de David, la maison d'Israël, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alors il y a dans ces deux versets, eh bien, à la fois tout simplement la caractéristique géographique, nous pouvons dire, en quelque sorte, c'est-à-dire que l'apparition de Jésus se fera dans un lieu précis, à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Il apparaîtra à ce moment-là d'une manière glorieuse. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est tout simplement le témoignage de compassion de Dieu par rapport à Israël, qui va répandre sur ce peuple qu'il a véritablement élu. Et il nous est dit tout simplement qu'à ce moment-là, Dieu va répandre sur cette maison de Jérusalem un esprit de supplication, un esprit de repentance. Et à ce moment-là, les Hébreux, les Juifs, vont se tourner dans les pleurs et les lamentations, reconnaissant que c'est eux qui ont crucifié Jésus et que c'est eux qui ont rejeté tout simplement leur Messie. Alors, ce sera, et je le répète, un retour visible dans les airs, en gloire, après l'humiliation, son retour sera glorieux. Et nous savons que viendra après, dans la chronologie de ce que nous laisse entendre le livre de l'Apocalypse, ça sera la bataille d'Armageddon qui va rassembler toutes les nations de la terre pour se liguer contre Israël et contre Dieu. Viendra ensuite la défaite de ces nations, ça sera la période du millénium, qui sera le salut pour Israël, pour l'Israël messianique, je précise, et où il y a naturellement cette pensée que nous avons déjà évoquée depuis le début de notre méditation, délivrée, épargnée, passée outre. Et nous voyons que quelque part, dans cette mise à part, pour être sauvé du jugement, pour être protégé de la condamnation, où nous sommes écartés finalement de ce jugement et de cette condamnation divine, tel a été le sort, tel en sera encore le sort de ceux qui croient et font foi aux promesses de Dieu, qui acceptent le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, et qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour épargner la nôtre. J'aimerais donner quelques petites notes en ce qui concerne le retour de Jésus, pour préciser brièvement la pensée. C'est que Jésus, dans le message de l'Évangile, nous donne quelques références et quelques signes précurseurs de sa venue. Pour la première fois, pour la seconde fois, première, deuxième phase, alors il exposera des signes sont clairs. Il y aura des séducteurs qui viendront, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura de la misère, il y aura toutes sortes de choses, en effet, qui sont des signes qui doivent laisser réfléchir l'humanité aujourd'hui encore. Et il y a un mot d'ordre qui est donné par Jésus, c'est « veillez et priez ». Ça, c'est pour les croyants, « veillez et priez », parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alors, nous pouvons peut-être aller un petit peu plus loin. Et comment se produira tout simplement ce retour de Jésus? Et je le rappelle, il sera dans une première phase et une seconde phase. D'abord, le retour de Jésus-Christ est mentionné, et ça c'est intéressant parce qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose de nouveau, 1527 fois dans l'Ancien Testament et 319 fois dans le Nouveau Testament. Et nous voyons que après la première phase qui révélera l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, il y aura naturellement cette période terrible qui viendra sur le monde, ce qu'on appelle la grande tribulation ou la longue tribulation. Et ça sera une période extrêmement difficile pour les nations, pour Israël, incrédule, l'Israël réticent, et également pour tout ce système mondial, l'antéchrist, le faux prophète, etc., etc. Donc, ce sera la grande tribulation. Ça, c'est la première phase qui verra l'enlèvement, comme nous l'avons lu tout à l'heure, de l'Église, où il nous est dit, et je le rappelle, les morts en Christ, les hommes qui sont morts en Jésus-Christ, qui sont morts en Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ils ressusciteront. Ils seront enlevés dans les airs, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. Ça sera un phénomène instantané. Ils seront glorifiés et ils recevront à ce moment-là l'incorruptibilité et l'immortalité, comme cela nous est dit, et vous pourrez le retrouver dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 52-53, que je vous laisse lire. Ça sera à ce moment-là, eh bien, une période tout à fait particulière. L'Église ne sera plus sur la terre. Ceux qui auront cru seront enlevés. Et il y aura dans le ciel, eh bien, une manifestation glorieuse du triomphe de Dieu. C'est ce que l'on appelle les noces de l'agneau, où il y aura là, eh bien, cette union entre l'épouse qui est l'Église et l'époux qui est Jésus-Christ. Et il y aura également un deuxième phénomène, eh bien, ce sera le tribunal de Christ, où je dois préciser par rapport, eh bien, à ce que nous avons lu tout à l'heure, puisqu'il ne faut pas perdre l'idée qu'il est bien spécifié dans Romains chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant », c'est-à-dire à partir du moment où véritablement, eh bien, c'est aujourd'hui en quelque sorte, « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc, plus de condamnation pour l'Église, et nos vies seront affranchies complètement et totalement, et nous serons à régner avec Jésus dans la présence de Dieu dans son ciel de gloire. Alors, après cet enlèvement, viendra l'homme de la perdition qui va se déchaîner pendant à peu près dans une période de 7 ans, mais particulièrement dans la dernière période de 3 ans et demi, qui va se déchaîner dans le mal, qui va se déchaîner dans la corruption, qui va se déchaîner dans tout ce qu'il peut y avoir d'abominable, de plus abominable sur la terre, entre les hommes, entre les nations. Donc viendra le fils de la perdition que l'on appelle l'Antéchrist. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, nous serons écartés, nous serons épargnés, nous passerons outre. En ce qui concerne la deuxième phase, c'est le retour de Christ en gloire. Je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle la parousie, l'avènement. Et ça sera à ce moment-là, eh bien, la fin de la grande tribulation. Ça sera finalement, eh bien là, un coup d'arrêt à toutes ces atrocités, à toutes ces catastrophes, à toutes ces choses épouvantables qui seront amenées par, eh bien, tout simplement le diable, ces démons qui vont se ruer sur la terre pour détruire les hommes. Et ça sera à ce moment-là un retour sur terre. Autant la première phase, c'était dans les airs. Là, maintenant, c'est un retour visible sur terre. Et Jésus va revenir avec les anges et avec les saints, avec les chrétiens, avec l'Église. Et nous voyons qu'il va y avoir un combat qui va se livrer. Combat contre la bête, contre le faux prophète, qui va détruire, qui va, eh bien là, être la capitulation des impies. La bête et le faux prophète qui seront jetés dans les temps de feu et de sang. Viendra ensuite, et je fais très vite, mais viendra ensuite ce que l'on appelle la bataille d'Armageddon, dans la vallée de Jisréel, en Palestine, en Israël, où là, eh bien, toutes les nations vont se rassembler, vont s'entretuer les unes et les autres. Et ensuite viendra le jugement final, c'est-à-dire la seconde mort. Ce que je voudrais ajouter, toujours dans notre pensée, c'est qu'il y a là quelque chose de tout à fait significatif, et j'aimerais marquer le point évangélique, la pensée, l'esprit évangélique de notre méditation. Et c'est toujours naturellement, eh bien, cette parole que je répète encore une fois, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, eh bien, toute notre pensée, tout notre cœur, toute notre concentration doit être de savoir si oui ou non, eh bien, nous avons fait la paix avec Dieu si véritablement, eh bien, nous croyons en sa grâce et que nous avons reçu, eh bien, par la foi, son salut. Donc, nous avons encore un texte qui va, eh bien, là, expliciter tout cela. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, où il est dit cette parole. Et c'est d'abord quelque chose de rassurant. C'est quelque chose qui nous atteste, finalement, eh bien, la vérité de Dieu. Quand dans Jean chapitre 14, verset 1er, il est dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et la suite est particulièrement, eh bien, significative. Il nous est dit qu'il y a plusieurs, et Jésus affirme, c'est la bouche de Jésus qui l'affirme, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Alors, on peut dire que maintenant, avec les quelques éléments que nous avons pu partager, vous en savez déjà plus qu'il y a une heure en arrière, naturellement. Donc, dans cette parole, Jésus d'abord nous rassure. Et puis, il nous assure que dans le ciel, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs conditions, nous pourrions dire, une condition commune, un lieu commun, c'est le salut en Jésus-Christ par la foi et dans la grâce, mais dans les détails, comme cela nous est demandé, comme cela nous est proposé, dans le chapitre verset 2, il est dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est une réalité invisible, mais bien réelle. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas percevoir les choses parce que nous sommes sur la terre. Mais néanmoins, c'est par la foi que nous pouvons véritablement placer toute notre espérance dans ce qu'il nous est dit. Donc, réalité invisible, il y a plusieurs demeures. Elles existent. C'est une vérité que Jésus-Christ atteste formellement. D'ailleurs, il nous dit, en quelque sorte, il prend le contre-pied parce que c'est une authenticité et c'est une confirmation puisqu'il nous prévient. Oui, mais si cela n'était pas, si cela était un mensonge, si cela était une histoire, si cela était irréel, je vous l'aurais dit. Mais comme cela est, c'est donc vrai, quoi qu'il en soit. Alors, l'apôtre Paul va surenchérir et il dira à travers des mots tout simples, dans 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 1er, il nous est dit, pour attester tout cela, nous avons dans le ciel, déjà nous avons dans le ciel, par espérance, par espoir, nous avons dans le ciel un édifice. Voilà, comme une maison pour nous, nous pouvons signifier ça à travers une maison, un palais en quelque sorte, parce que c'est la façon de comprendre les choses avec une vue humaine, mais la réalité, elle est spirituelle. Nous avons donc dans le ciel un édifice, une demeure qui n'a rien à voir avec nos maisons, avec nos châteaux, avec tout ce que nous pouvons imaginer, mais elle est éternelle, une demeure éternelle. Et Jésus insistera, il dira, mais je vous ai préparé la place. Et vous savez que la manière dont Jésus nous a préparé la place, il l'a préparé à travers sa venue pendant 3 ans et quelques semaines, pendant 3 ans à travers 30 ans, mais 3 ans de ministère évangélique. Et c'est à travers ses paraboles, c'est à travers ses enseignements, c'est à travers son exemple, c'est à travers tout ce qu'il a pu nous démontrer, nous, en tant que, et que nous avons encore consigné dans la Bible, parce que nous, ce que nous ouvrons la Bible, nous considérons, là encore, une fois de plus, que Jésus demeure vivant, et il est éternel, il nous dit, mais je vous ai préparé une place, à travers mon sacrifice à la croix, j'ai pris fait et cause pour vous, j'ai pris là, le jugement, je vous ai épargné, si vous voulez bien le croire, et vous allez passer où je vous ai préparé une place, et comme l'apôtre le dira également, Paul le dira dans une de ses épîtres, il dira, mais nous sommes aujourd'hui, déjà spirituellement, moralement et spirituellement, nous sommes ici dans les lieux célestes. Et cette situation, cette condition d'être assis, évoque tout simplement l'image du repos. Oui, autant la terre a été faite de troubles, a été faite de guerres, a été faite de tourments, a été faite de tribulations, a été faite de inquiétudes qui n'ont jamais cessé. En tous les cas, notre position dans les lieux célestes est une position de repos. On se repose, on se reposera. Et Jésus-Christ, venu pour nous sauver, ça c'est la première fois, c'est son apparition sur la terre, en Israël, en Palestine, 30 ans de ministère pour parler aux hommes, pour parler à son peuple et parler au monde. Donc il est venu une première fois pour nous sauver. À travers sa mort, nous sommes sauvés parce que nous le croyons. Ensuite, il est monté au ciel, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est l'ascension. Et nous voyons que maintenant, dans ce petit texte que nous avons dans l'évangile de Jean, il annonce son retour en gloire. Parce qu'il nous dit bien d'une manière très claire, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé, je reviendrai. Et ça, c'est important. Vous saurez que, eh bien là, il y a une espérance qui s'attache à mon retour pour vous donner le ciel, pour vous donner le repos, pour vous donner une nouvelle perspective qui n'a plus rien à voir avec toutes les tribulations de la terre, avec toutes les vicissitudes de l'existence. Et je viendrai vous chercher, c'est tout simplement, eh bien, la concrétisation de ce que nous avons dit, le retour de Jésus-Christ dans un premier temps, une première phase, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, et dans un deuxième temps, ce que l'on appelle tout simplement l'avènement de Jésus en gloire, je viendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi. Dans le verset 3 de notre texte, il est dit ceci, « Lorsque je m'en serai allé, donc je vous reviendrai, et que là où je suis, vous y soyez aussi. » Sa présence dans la plénitude, car il nous confirme que là où il est, eh bien nous y serons aussi. Nous ne serons pas perdus dans cet univers où il n'y a rien finalement, où c'est le vide, c'est le néant. C'est tout simplement la disparition complète et totale de la vie. Non, là où je suis, vous y soyez aussi, parce que c'est la véritable vie qu'il va nous donner, qu'il nous donne, qu'il nous promet. Et tout simplement la condition de tout cela, comme cela transpire et ressort de ce texte, eh bien la condition c'est de croire aux paroles de vérité. Là où je suis, vous y serez aussi. Et ça c'est quelque chose qui peut, dans nos souffrances, dans nos tribulations, dans nos larmes, dans nos chagrins de cette vie, eh bien nous dire qu'à un moment donné viendra le temps où eh bien tout cela aura disparu complètement et totalement. Et nous avons, et je reviens un petit peu en arrière, il est bien dit, et Jésus nous prévient à l'avance, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, et croyez en moi, plus de trouble, plus d'angoisse, ni de doute, ce fameux inconnu mystérieux est effacé, croyez en Dieu, croyez en moi. Et je termine par la première pensée que nous avions émise au départ, eh bien là où il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En d'autres termes, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui font foi à Jésus-Christ, de déclarer que si véritablement nous gardons ça au fond de notre cœur, dans une vie de persévérance, dans une vie de communion avec Dieu, dans une vie de service pour le Seigneur, si nous avons véritablement eh bien, reçu à cœur eh bien, de faire ceci ou cela, eh bien, à ce moment-là, nous savons qu'il n'y a véritablement plus de condamnation. Alors, quelles seraient les raisons de nous troubler et quelles seraient les raisons de nous inquiéter puisque les choses sont déjà faites eh bien, à l'avance. Alors que Dieu nous bénisse et soyez rassurés, soyez tranquillisés, parce que nous l'avons vu d'une manière assez sommaire ce matin, mais une chose qui est certaine, c'est que là nous avons surpassé en diagonale, nous pouvons dire, en nous souvenant de la Pâque des Hébreux, traversée de la mer Rouge, épargnée. Nous avons vu aussi l'histoire de Noé, nous avons parlé également du prophète Élie qui a été enlevé au ciel, de Jésus qui est remonté au ciel mais qui est redescendu, pour nous dire tout ce que nous avons dit ce matin en quelque sorte. Alors, que Dieu nous rassure, que Dieu nous bénisse, et nous pouvons eh bien maintenant, comme les disciples d'autrefois, qui étaient sur le mont de Galilée, qui ont vu Jésus s'élever vers le ciel, avec cette promesse qu'il reviendrait, comme nous l'avons lu il y a un instant, eh bien, de pouvoir nous réjouir à l'avance. Alors, nous vous remercions de votre attention, et je voudrais faire une toute petite annonce supplémentaire. Vous qui êtes des familiers de notre site, parce que ça fait déjà une quinzaine d'années que nous avons ouvert ce portail, et je voudrais simplement vous rappeler que nous avons eh bien, mis et nous mettons encore à votre disposition des messages d'édification, des messages d'études, eh bien, à travers l'audio tout simplement. Nous avons également eh bien, là près de 130 films vidéo toujours aussi sur des commentaires bibliques. Et puis nous avons récemment ouvert deux pages nouvelles, l'écrit en majuscule, vous l'avez sur le bandeau, où il est marqué « Écriture en majuscule », ce sont des pages imprimées, en effet, qui relatent les personnages illustres de l'Ancien Testament, des personnages illustres du Nouveau Testament que nous sommes en train de développer actuellement, puisque l'étude n'est pas finie, et puis sur la vie de Jésus également. Et puis nous avons naturellement, eh bien, là, des partenaires, hein, nous avons YouTube, nous avons également Facebook, hein, et puis Top Chrétien, Trésor Sonore. Alors, tout ça s'est réuni dans tout simplement là un titre particulier ou tout simplement une entrée que nous appelons tout simplement eh bien Bible Espoir. Eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, et merci de votre attention, et que là nous puissions véritablement regarder avec espérance vers celui, vers le ciel, vers celui qui revient bientôt, parce qu'il nous a sauvés et qu'il veut nous prendre avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt.